Un grand bonjour à vous tous, chers amis auditeurs. On croit généralement que Dieu termina son œuvre par la création de l'homme et de la femme. Adam aurait bénéficié d'un caractère parfait et de l'immortalité. Pourtant, la Bible enseigne qu'Adam fut créé mortel. Satan savait qu'Adam et Ève étaient libres de prendre leurs propres décisions, indépendamment de la volonté de Dieu, comme c'est toujours le cas pour chacun de nous aujourd'hui. La croyance populaire suppose que Satan réussit à séduire l'homme, grâce à un moment d'inattention de la part de Dieu, amenant ainsi l'homme à transgresser les ordres qui lui avaient été donnés, et contrecarrant ainsi le grand plan divin. Satan aurait donc eu l'avantage sur Dieu. Toutefois, il ne peut y avoir aucune ambiguïté entre Dieu et le diable. Dieu est et reste l'autorité suprême de l'univers. Mais alors, si Dieu est tout-puissant, s'il est rempli de bonté, d'amour et de miséricorde, pourquoi n'intervient-il pas pour mettre un terme à toutes les misères et à son cortège de souffrances que l'on déplore dans le monde? Si Dieu est tout-puissant, et s'il n'intervient pas, aurait-il alors une part de responsabilité dans les malheurs qui affligent le monde? Un auditeur m'a fait part de ses difficultés familiales. Il m'écrit: je suis sûr que si ma vie est perturbée, c'est Dieu qui le veut ainsi. Toutefois, si le Créateur du ciel et de la terre, mon Dieu en toute puissance, veut que je fasse sa volonté, je suis d'accord si mon foyer n'est pas détruit et que tous les autres problèmes puissent disparaître. Il ne convient pas de réagir de cette façon, car c'est vouloir ainsi imposer ses conditions à Dieu et conclure que nos problèmes sont voulus par Dieu. C'est oublier que Dieu a établi des lois dont l'observance entraîne des bénédictions et leur rejet des malédictions. Vous pouvez lire cela dans Lévitique 26 et Deutéronome 28. La réaction de l'auteur de la lettre, dont je viens de vous lire un passage, est très courante. Lisons ce que déclare l'Éternel. « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. » L'Écriture ajoute: « Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. » Ces passages confirment l'existence de lois qui, transgressées, finissent par amener la malédiction. L'homme retire le salaire du choix qu'il fait quant à sa façon de vivre. On peut également souffrir par suite des fautes des autres, comme lors d'un accident de voiture. On récolte ce que l'on sème ou ce que quelqu'un sème près de nous. Amos écrit: « Arrive-t-il un malheur sur une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur ? Souvenez-vous des villes de Sodome et Gomorre qui furent détruites par l'Éternel, parce que leurs habitants vivaient de manière perverse. Ce que les hommes ne comprennent pas, c'est le plan, le grand dessein de Dieu qui s'accomplit ici-bas. Dieu est l'auteur de ces lois qui amènent la bénédiction ou la malédiction. Mais c'est l'homme qui est coupable et qui ferait beaucoup mieux de se plaindre de ses propres péchés au lieu de se plaindre de Dieu. » L'homme apprend par la souffrance, et il peut se repentir de ses mauvaises voies et rechercher la volonté divine. Encore une fois, il s'agit d'un choix dont l'homme récolte les conséquences, mais son entêtement à suivre sa voie plutôt que celle de Dieu lui cause bien des souffrances. L'enfant qui a bousculé son camarade, peut-il blâmer son père pour la punition qu'il lui donne ? L'élève qui enfreint le règlement de l'établissement scolaire qu'il fréquente, peut-il blâmer son professeur pour la sanction qui lui est infligée? Le malfaiteur peut-il blâmer le policier qui l'a arrêté? Nous avons tous tendance à blâmer les autres pour les difficultés dont nous sommes responsables. Nous sommes libres de choisir notre comportement, mais nous devons subir les conséquences de notre choix. L'homme apprend par la souffrance. Jésus lui aussi a souffert. Paul écrit: « Il convenait en effet que celui qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. C'est lui qui a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Job a également beaucoup souffert. Son expérience nous aide à mieux comprendre certaines choses de la vie. Job avait tout pour être heureux. La Bible dit à son sujet, « Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Il lui naquit 7 fils et 3 filles. Il possédait 7 000 brebis, 3 000 chameaux, 500 paires de bœufs, 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs. Et cet homme était le plus considérable de tous les fils de l'Orient. Job avait donc réussi sa vie professionnelle, sa vie familiale le comblait, au point de vue moral, on ne pouvait rien lui reprocher. Poursuivons. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui ? Tu as béni l'œuvre de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Job vivait conformément à la volonté de Dieu. Il était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Par conséquent, il jouissait des bénédictions promises. Mais Satan se présenta devant le trône de Dieu et avança l'hypothèse que Job trouvait son compte à être vertueux et que sa justice était motivée uniquement par l'intérêt. Il suggère « Touche à ce qui lui appartient et il te maudira. » Dieu autorise Satan à priver Job de ses biens afin de le tester, de le mettre à l'épreuve. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Satan ne peut donc pas agir sans l'autorisation divine. Il a été autorisé à éprouver Job, mais pas au-delà des limites qui lui ont été imposées et qu'il ne pourra pas dépasser. Dieu ne donna absolument pas carte blanche à Satan. Nous constatons donc que l'Éternel demeure l'autorité suprême, le maître qui donne ses ordres, qui accorde son autorisation et qui fixe des limites que Satan ne pourra pas dépasser. Un jour, un serviteur alerta Job que des Sabéens avaient volé ses bœufs et ses ânesses. Quand un autre serviteur annonça que la foudre avait détruit ses brebis et ses bergers. Il n'avait pas encore fini de parler qu'un troisième serviteur vint dire que 3 bandes de Chaldéens avaient enlevé les chameaux et tué ses serviteurs. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit « Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'apporter la nouvelle. » Non seulement Job était dépouillé de ses biens, mais tous ses enfants venaient de succomber. Job blâma-t-il Dieu comme Satan l'espérait? Le maudit-il? Voyons cela. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. En tout cela, Job ne pécha point et n'attribua rien d'injuste à Dieu. Job savait que tous les biens qu'il venait de perdre, ainsi que ses enfants, venaient de Dieu. C'est Dieu qui lui avait donné toutes ses bénédictions, mais c'est aussi l'Éternel qui les lui avait reprises. Il n'ignorait pas que l'Éternel avait autorisé ce désastre. Poursuivons la lecture de ce récit, préservé à notre intention. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se prosterner devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel, « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Ce dialogue est très révélateur. Il nous apprend que Dieu permet à Satan, qui est l'accusateur des frères, d'exprimer son opinion. Après avoir écouté, l'Éternel tranche. « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Dieu livre à Job entre les mains de Satan. Celui-ci était libre de l'affliger des plus cruelles afflictions, mais toujours dans les limites imposées. Il ne pouvait absolument pas toucher à sa vie. Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit, « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudis Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit, « Tu parles comme une femme insensée. Quoi ? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal ?» En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Non, Job ne prononça pas des paroles regrettables. Il savait que l'Éternel accordait aussi bien la prospérité que l'adversité. Comme le prophète Amos le confirme, « J'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et un autre, qui ne l'a pas reçu, s'est desséché. » Vous remarquerez qu'il n'existe aucun pouvoir égal ou supérieur à Dieu. Dieu ne souhaite pas le mal, mais il le permet, parce qu'il a laissé à l'homme son libre arbitre, et il veut que l'homme apprenne à faire le bon choix. En permettant le mal, Dieu en a la responsabilité, mais il n'en est pas coupable. Cette distinction est capitale. Pouvons-nous rendre Dieu responsable du bien comme du mal? Absolument. Job connaissait cette distinction et l'acceptait sans broncher, sans murmurer. C'est ainsi qu'il ne pécha point par ses lèvres. En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. La semaine prochaine, nous examinerons la réaction des amis de Job et nous verrons que leur façon de penser correspond à celle des gens de notre époque. Nous constaterons que Job, grâce à ses souffrances, rendra grâce à Dieu parce qu'il aura appris une très grande leçon et supporté courageusement la correction.